Bonjour et bienvenue. J'ai le plaisir de vous proposer et de vous présenter les rendez-vous du droit. Au menu d'aujourd'hui, les fondements du droit. Sans doute la question la plus difficile pour n'importe quel juriste et encore plus difficile qu'on l'aborde dès le début des études de droit, alors qu'on sait encore bien peu de choses sur cette question, sur la matière même dont on prétend étudier les fondements. Alors pour essayer de résoudre, essayer de tirer un peu plus au clair cette délicate question des fondements, voire des fondations du droit, eh bien on s'y est mis à trois. À ma droite, Étienne Nédélec. Qui êtes-vous ?
Bien, bonjour à tous. Alors je suis doctorant en cinquième année à l'Université Paris 1 et je travaille en procédure civile. Plus particulièrement, je travaille sur ce qu'on pourrait appeler une mise en concurrence des règles de procédure avec les règles de management, les règles d'efficacité budgétaire, de gestion. Est-ce que celles-ci, les règles d'efficacité, les règles gestionnaires, viennent concurrencer ou non les règles de procédure dans la possibilité de rendre la justice telle qu'on l'entend aujourd'hui en droit français et en procédure civile.
Voilà. Qu'est-ce que la justice est sacrifiée sur l'autel d'une logique comptable ? Voilà une question dont vous traitez de manière un peu moins médiatique que je viens de la résumer. Et vous, Antoine Nachim,
bonjour.
Prénom, nom, profession, que faites-vous ? Alors,
qui êtes-vous ? Je suis également doctorant. Je suis doctorant en quatrième année au sein de l'Université Paris 1 et je travaille sur l'intérêt du contractant. Ce qu'il faut savoir, globalement, en droit des contrats, vous verrez ça l'an prochain, c'est que la définition du contrat est une définition volontariste, c'est-à-dire qu'on se réfère toujours à ce qui a été voulu par les parties. Or, dès lors qu'on se réfère à ce qui est bon pour les parties, on se réfère à leur intérêt. Or, il y a donc une tension qui existe entre, d'une part, le fondement volontaire du contrat et, d'autre part, le fondement intéressé. L'objet de mes recherches, c'est de tirer les conséquences de cette opposition.
Pas d'intérêt, pas de contrat. C'est un petit peu court, mais enfin, voilà un sujet éminemment difficile et qui va nous amener très rapidement à notre sujet, puisque finalement, ce que vous nous dites, c'est que le fondement habituel du contrat, c'est la volonté, mais on doit se demander si le fondement du contrat, ça ne peut pas être aussi l'intérêt. Mais nous, aujourd'hui, on ne va pas parler seulement du fondement du contrat, on va parler des fondements du droit. Mais nous ne sommes pas très loin du sujet que vous traitez, Antoine, dans votre thèse. Il est temps de passer à la première étape de notre émission, les questions que vous vous posez. Les questions que vous vous posez. Difficile sur les fondements du droit. Nous sommes partis, en préparant cette émission, quelque part un peu de tous les pourquoi que peuvent susciter le droit. J'ai des étudiants de première année, mais aussi dans le grand public. Pourquoi accorde-t-on une défense à un criminel absolument épouvantable ? Autant de questions qui peuvent se poser que nous allons essayer de débrouiller à travers quatre sujets, je dirais, dans cette première partie. Est-ce qu'on fait du droit pour gagner de l'argent ? Première question, est-ce que le droit, ça sert uniquement à assurer la sécurité des citoyens ? Est-ce que le droit, c'est quelque chose d'autonome par rapport à d'autres disciplines, la science, l'économie ? Et est-ce que le droit est perméable aux différents systèmes de valeurs qui cohabitent au sein d'une société ? Premier thème, alors, vous m'avez dit, Antoine, que vos étudiants faisaient du droit pour Étienne, à ma gauche, Antoine, à ma droite, Étienne.
Ouais, c'est parfait.
Donc, Étienne, vous m'avez dit que vos étudiants, enfin, vous avez posé la question à vos étudiants, pourquoi vous êtes inscrit en droit ? Alors, la réponse, vous avez été un peu surpris, vous m'avez dit.
La réponse, assez surprenante, je m'attendais à des grandes ambitions de justicier, de droit pénal, de défendre la veuve et l'orphelin, et en réalité, assez peu de justiciers et beaucoup de travailleurs tout à fait honorables, mais qui sont là pour gagner un petit peu leur vie et donc des conditions. Dans des bonnes conditions que permet le droit, mais donc, peu de justice.
Donc le but, c'est d'apprendre une technique, quoi. Au fond, c'est on fait du droit, mais ils auraient pu faire expert comptable, médecine. C'est un peu... qu'est-ce que vous leur diriez à ces étudiants qui disent « Moi, je fais du droit pour faire du droit et le reste, ça ne m'intéresse pas plus que ça. »
Je peux comprendre cette ambition. C'est une ambition jeune parce que c'est aller simplement au départ des études de droit. Et on peut la comprendre parce que finalement, si on regarde aujourd'hui avec quelque chose qui est aujourd'hui très utilisé, c'est-à-dire toutes les start-up qui sont en train de se monter petit à petit, ce qu'on comprend, c'est que les start-up ont besoin de conseils pratiques, de conseils techniques. Ils ont des problématiques que les avocats doivent résoudre. Et lorsqu'on a cette activité de conseil d'une start-up, par exemple, d'une jeune entreprise, il est bien évident qu'on n'a pas l'occasion de s'interroger sur les fondements du droit. Ce qui compte, c'est finalement d'apporter une solution à un problème posé. La question de savoir si le droit est juste, si la règle est légitime, c'est finalement une question qui est escamotée.
Oui, mais il y a quand même des trous dans la raquette. Si on doit le droit par réponse à tout,
non, bien sûr.
S'il faut, quand on a une règle et qu'on essaye de l'appliquer sans trop savoir exactement ce qu'elle signifie, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut peut-être aller voir un petit peu plus loin que le bout de son nez, non ?
Évidemment, je pense qu'il faut. Mais c'est en tout cas une posture praticienne, une posture professionnelle qui a ses mérites, qui a aussi ses limites.
Ses limites, très clairement, et on voit qu'il y a souvent, on revient un petit peu au galop, la question de à quoi servait cette règle, sur quoi elle était fondée, et véritablement, on peut jamais s'en passer. Même dans la start-up, il faudra se poser la question de savoir est-ce que ça, c'est conforme, cette facilité de paiement, cette facilité de création de l'entreprise, est-ce que tout ça, c'est conforme, ou est-ce que c'est pas un petit peu détourné au nom simplement du sacro-saint profit qui serait poursuivi.
Bon, de remarques quand même, ça veut dire que même si on est un pur si on veut prendre le droit comme une pure technique pour optimiser tel projet, par exemple ici un projet d'entreprise, il y a quand même un moment où on est obligé de s'interroger sur les finalités des règles qu'on applique, ne serait-ce que parce que ces règles comportent des imprécisions. Donc déjà, la question du pourquoi, on doit se la poser. La question des finalités, alors, ce que je vais dire n'est pas gravé forcément dans le marbre, c'est pas exactement la même que celle des fondements. Les finalités, c'est les objectifs de la règle. Les fondements, on pourrait dire, c'est les fondations, c'est ce qui porte l'ensemble. Si on s'interroge sur le fondement du droit, c'est qu'on imagine que si ce fondement n'existe pas, le droit s'effondre. Comme une grande cathédrale s'effondre si les fondations prennent feu. Alors, il y a aussi une autre chose qu'on entend assez souvent, qui est de dire bah, le droit est malgré tout là pour garantir la sécurité des Français sur le territoire français. Voilà. Est-ce que c'est... et notamment, alors ça, c'est, je pense à ça parce qu'on dit, quoi, je disais tout à l'heure, comment on peut défendre un horrible criminel. Comme pourquoi est-ce qu'on défend même quelqu'un dont on sait qu'il a commis les pires méfaits
Oui.
Qu'est-ce que vous répondez à ça quand on vous dit quel scandale
C'est vrai que... C'est vrai que c'est une interrogation classique des personnes qui abordent des études de droit. Comment est-ce qu'on fait pour défendre Klaus Barbie, par exemple, dont on sait qu'il a commis des atrocités ? Bien, je pense que pour répondre à cette question en juriste, il faut distinguer d'une part la personne du criminel ou de la personne dont on sait qu'il est en réalité un criminel, du dossier que l'on doit défendre. Et le principe du droit à la défense, c'est s'occupe finalement de cette personne et non pas des agissements de cette personne. C'est pour cette raison qu'on peut finalement considérer que chaque individu a droit à une défense, indépendamment des faits qui ont été commis.
Oui, mais alors, bon, Klaus Barbie est mort, mais là, actuellement, on prononce des peines de prison assez lourdes contre des individus dont on sait qu'un jour ou l'autre, ils finiront par sortir de prison et dont on sait, selon toute probabilité, qu'ils seront encore dangereux. On peut penser aux prédateurs sexuels, mais aussi aux grands délinquants dont on sait que quelques mois après sa sortie de prison, on peut imaginer que le braquage est pour dans peu de temps. Et là, effectivement, beaucoup de citoyens ne comprennent pas... ne comprennent pas, Étienne, que ces individus soient remis en liberté.
Tout simplement qu'en fait, il faut rappeler le principe qui, pour le juriste, le principe, ça reste la liberté de circuler, de faire un petit peu...
L'article 4 de la déclaration de 89.
Voilà. Donc ça reste le principe et que l'exception est la privation de liberté et parfois l'enfermement, selon différents modes. Mais le droit pénal vient être une exception. En raison d'une atteinte passée, on est... mis au ban de la société pendant un quelque temps. Mais une fois ce temps passé, le droit réintègre dans le domaine du principe, en fait, dans le domaine de la liberté, celui qui a fauté, qui a failli. Et le droit, là, reste un petit peu de côté. Et les questions ensuite de savoir s'il récidivera, etc., il n'est pas contraint par ces probabilités qui sont un petit peu annoncées.
Ouais, quand même. Est-ce qu'on peut rester complètement les bras ballants ? On sait aujourd'hui que les experts psychiatres peuvent nous dire avec une très très forte probabilité que certains individus qui sont des prédateurs sexuels recommenceront si on les laisse hors de prison, même après avoir purgé une peine de 30 ans, si physiquement ils sont encore en capacité de le faire. Est-ce qu'on peut rester complètement les bras ballants devant une proposition qui est scientifiquement crédible ?
Si elle est scientifiquement crédible, libre à nous de faire le choix de l'intégrer dans notre raisonnement juridique. Il faut simplement garder à l'esprit que le droit ne peut pas être soumis complètement aux résultats d'une autre science, si tant est que c'en soit véritablement. Mais en tout cas, le juriste ne peut pas, il n'est pas dans sa tour d'ivoire, il ne peut pas ignorer complètement les psychiatres, les économistes, les médecins de manière générale. Mais toujours, il faut les écouter, garder notre spécificité.
Ouais, je rebondis sur ce que vous dites, justement. Là, c'est le vous avez compris qu'en filigrane, on aborde le troisième thème de, ce temps de questionnement, qui est de se dire, est-ce que le droit est quelque chose d'autonome, d'irréductible à toutes les autres disciplines? Et là, on voit bien à travers cet exemple du prédateur sexuel, dont la psychiatrie peut nous dire, avec un certain degré de certitude, qu'il sera probablement récidiviste. Et nous disons, nous entendons cela comme juriste, mais comme juriste, nous posons que notre discipline a son autonomie, sa façon de fonctionner, et ce ne sont pas d'autres sciences qui vont dire aux juristes ce qu'ils doivent faire. Et ça, là, on a vu l'exemple de la psychiatrie, mais on peut prendre l'exemple avec l'économie. Et là, Étienne, vous aviez tout à l'heure, de quoi parlait-on?
Oui, l'économie, c'est un très bon sujet, puisqu'en fait, pour quiconque a suivi quelque peu l'actualité, et notamment l'actualité du droit du travail, on voit les assauts répétés qui sont portés à l'encontre du code du travail, jugé trop gros, trop problématique et qui ralentirait l'activité économique. Pour autant, on peut tout à fait entendre ces arguments. On peut aussi entendre les arguments inverses qui nous disent que la législation du travail n'est pas une atteinte en soi au bon fonctionnement du marché du travail. Pour autant, je le disais, le juge n'est pas contraint par l'économie, il n'est pas contraint par ce qui doit être économique. Non, le juge, il est contraint par des principes juridiques qu'on hérite depuis des années avec des grandes règles que l'on pose comme au-dessus parfois des contingences selon la tendance économique, la tendance scientifique de la même manière. Ces probabilités, ces annonces de ce qui devra être et de ce qui sera par les sciences externes ne s'imposent pas aux juristes. En dernière instance, il suit une méthode juridique, un raisonnement et une formation juridique qui fait en fait sa valeur propre.
On a une bonne illustration de ce que vous dites, qui a été l'épisode du contrat nouvelle embauche ou contrat première embauche, qui reposait sur cette idée que si on facilite les règles du licenciement, on facilite dans le même temps l'embauche. Et donc on a dit, c'est pas la peine et du coup on a dispensé les employeurs de motiver le licenciement. Alors peut-être que économiquement la proposition est exacte, mais nous juristes, ça on peut en discuter, mais pour le coup nous juristes on sait pas. Voilà. Peut-être que c'est vrai, on constate quand même que dans les pays d'ailleurs où le droit du travail est moins protecteur qu'en France, malgré tout il y a moins de chômage. Donc c'est peut-être vrai économiquement, il reste que l'idée de supprimer la motivation du licenciement a mis des milliers de personnes dans la rue, donc c'était en 2005-2006, et on n'est jamais revenu sur le principe qu'en France, c'est une nécessité de justice, on ne sépare pas de quelqu'un avec qui on travaille depuis des années sans lui dire pourquoi. Voilà. Est-ce que vous voyez d'autres exemples où le droit ne se laisse pas dicter sa conduite par d'autres disciplines, par le...
Il me semblait que vous étiez revenu dessus tout à l'heure quand on avait en filigrane cet exemple du prédateur sexuel multirécidiviste. Et finalement, ici, on se disait que la quasi-certitude, comme vous le disiez tout à l'heure, de certains psychiatres ne doit pas, nous, juristes, nous forcer à le...
Ce qu'on se disait aussi, c'est qu'à force de tenir tout le monde à distance, on finissait par être un peu lent et par passer pour des conservateurs. Alors, et on dit d'ailleurs ça, que les juristes sont des conservateurs.
Alors, tout à fait. Tout à fait. Le juriste, il est un conservateur, c'est peut-être parce que les règles de droit qui ont été sa production depuis énormément de siècles, en réalité, on s'en doute, eh bien, ces règles de droit nous permettent de prendre du recul sur les évolutions sociétales. C'est des évolutions qui, parfois, et aujourd'hui à l'ère numérique, vont peut-être un peu vite. Et donc, on dit facilement, le juriste est à la traîne. Le juriste doit prendre acte de ce qui se passe dans la société qu'il est censé agir. Et donc, étant à la traîne, il faut le modifier. Faut-il véritablement le faire? Je ne crois pas, parce qu'en réalité, le droit, lui, doit nous permettre aussi parfois de poser une limite à certaines évolutions, certaines seulement, bien sûr, lorsqu'elles soulèvent des questions qui n'appartiennent pas au juriste d'adresser.
Donc si le juriste est un conservateur, c'est aussi qu'il est résistant. Voilà. Et donc son travail, ça c'est important, il est à l'écoute de ce qui se passe, il n'est pas dans sa tour d'ivoire, mais le juriste prend le temps d'agréger tout ce qui se présente pour que cela fasse sens par rapport à toute une histoire, une tradition de justice et une tradition juridique. Et tout ça prend un certain temps, c'est ce qui assure la pérennité de la société dans laquelle on vit. On n'est pas imperméable, et c'est le quatrième temps de cette séquence, le juriste n'est pas imperméable aux différents systèmes de valeurs qui cohabitent au sein d'une société. Ça peut être la religion, ça peut être l'idéologie. Vous voulez commencer, Étienne ?
On peut, c'est vrai que la religion a une influence très, très importante sur le droit tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il y a un exemple qui est assez illustratif, on peut dire, de cela, c'est les règles de procédure. En fait, les règles qui garantissent un bon procès, qui garantissent une bonne défense pour les parties, notamment la règle qui fait qu'on doit être invité à se présenter au tribunal et on doit être invité à présenter sa défense lorsqu'on est jugé, que l'on soit en défense ou, évidemment, en attaque, pour dire, qu'on soit l'initiative de l'action judiciaire. Par exemple, on a dans le vieux droit romain canonique, donc c'est-à-dire 12e, 13e siècle jusqu'au 14e, on voit qu'il y avait des juristes qui relisaient le droit romain, qui disaient, bon, il faut qu'une personne soit invitée à se prononcer. Dans l'assignation, on disait, il faut lui dire où est-ce qu'elle doit aller. Et bien tout ça, devant quel tribunal et quel jour, on le retrouvait à l'époque pour justifier au niveau religieux. On disait, oui, mais voyez, Dieu, quand il convoque Adam et Ève pour leur demander de s'expliquer, c'est la même chose. Il leur dit, il faut que vous veniez pour que je puisse vous juger et vous condamner. De la même manière, quand Dieu descend à Sodome pour constater cette société à l'abandon, qui périclite complètement, il descend sur les lieux, il vient voir ce qui se passe. Et donc, on a vraiment l'idée qu'il faut entendre les parties pour garantir une bonne justice, de la même manière qu'il faut permettre à une personne de parler avant de lui licencier, il faut au moins qu'elle nous entende, nous prononcer. La justice, c'est aussi ce contact humain.
Bon, là, c'est la religion, c'est le droit canon, puisque c'est pour des choses qui ont pesé sur l'histoire et sur l'histoire de France. Ça peut être aussi l'idéologie. Après tout, quand on parle... les Français ne se sont jamais convertis au marxisme, mais malgré tout, le fait qu'il y ait une critique marxiste de l'exploitation de l'homme par l'homme a fait qu'il y a eu une idéologie socialiste en France qui a certainement pesé dans les évolutions sociales et qui fait que dans la tradition française, nous avons un droit du travail et un droit de la protection sociale qui est probablement plus protecteur du salarié et de leur famille que ne peuvent l'être, par exemple, des droits anglo-américains qui, eux, sont moins protecteurs et qui ont certainement été moins perméables à ces doctrines. Bon, vous voyez, on fait un travail compliqué, les juristes. On est à une espèce de sorte de compromis permanent au cœur des différentes tendances, des différentes contradictions d'une société. C'est l'office du juriste et c'est l'office aussi du juge, d'ailleurs, plus généralement, que de réaliser ce subtil arbitrage de tendances, de systèmes de valeurs concurrents. Voilà. Alors ceci, maintenant, nous souhaitons vous montrer de manière un peu plus technique et à travers justement des solutions techniques, montrer comment le droit s'accommode et coexiste avec ces systèmes de valeurs. Il est temps de passer au second temps de notre émission « Le droit par l'exemple ». Le droit par l'exemple, donc trois thèmes que nous allons aborder avec vous pour illustrer trois sujets, enfin trois exemples pour illustrer trois sujets. Premier sujet, le droit se démarque de la morale et même il prend un parti inverse à celui de la morale. Second sujet, le droit intègre la morale, mais il ne le fait pas sans condition. Le droit ne fait jamais un chèque en blanc à la morale. Et troisième sujet, le droit peut aller jusqu'à se remettre en cause lui-même s'il constate que son application conduit à une solution qui n'est pas immorale, mais qui est, nous allons le voir, injuste. Alors, premier sujet, le droit contre la morale, une affaire emblématique, l'affaire dite Baldus. Parlez-nous de l'affaire Baldus, Antoine.
Alors, effectivement, cette affaire Baldus, c'est la Cour de cassation du 3 mai 2000. Je vais vous résumer les faits très rapidement. Ça tombe bien parce qu'ils sont très simples. Dans cette affaire, une personne était propriétaire d'à peu près 200 photos d'un photographe qui s'appelle Baldus.
Alors, juste Baldus, c'est un grand peintre, hein, tout le monde le sait. Il est moins connu comme photographe. Voilà. Après, c'est pas n'importe qui. Voilà, c'est pas des photos de vacances. Quoi, voilà.
Non, ça c'est sûr. Donc, effectivement, cette personne-là vend. Alors, évidemment, cette personne-là ne sait pas que les photographes sont de Baldus. Elle ne sait peut-être pas qu'en réalité, Baldus est un grand peintre qui, en étant photographe, a effectivement créé des clichés qui ont une valeur très importante. Donc, à une vente aux enchères publiques, elle commence par vendre une cinquantaine de photos à un prix unitaire de 1000 francs. Bon, c'est quand même pas mal, mais c'est pas si énorme que ça. Bon, et puis, quelques années plus tard, elle retrouve l'acheteur à cette vente aux enchères publiques et elle lui revend à nouveau à un prix qu'elle détermine, et c'est important, elle-même cette fois, encore 50 photos à un prix 2000 francs. Et puis, troisième vente d'une trentaine de photos cette fois-ci pour 1000 francs. Évidemment, après ces ventes, elle se rend compte de deux choses. La première chose, c'est que l'acheteur était en réalité lui-même photographe, assez connu, et donc que ce photographe avait évidemment connaissance que ces clichés étaient de Badus et qu'ils avaient une réelle valeur. Et deuxième chose qu'elle apprend, bien sûr, c'est qu'en réalité, le prix de 1000 francs la photo pour de tels clichés était en réalité dérisoire. Alors, ce qu'elle essaye d'obtenir, bien sûr, une fois s'être rendu compte qu'elle s'était fait littéralement rouler, c'est qu'elle essaye d'obtenir ce qu'on appelle la nullité du contrat. Qu'est-ce que c'est que la nullité du contrat ? On essaye simplement d'anéantir rétroactivement le contrat. C'est-à-dire que, si vous voulez, pour simplifier, on fait le contrat à l'envers. Elle, vendresse, récupère les photos.
Okay, on lui demande le contrat, lui, ça voit à peu près. Et pour quel motif ?
Pour quel motif ? Pour motif de réticence dolosive. La réticence dolosive, c'est simplement cette idée de dire que elle a été trompée. Pourquoi ? Parce que son co-contractant, l'acheteur, avait une information. Cette information, il ne le lui a pas donnée. Et donc, la question qu'on peut se poser, d'où les rapports entre droit et morale ici, c'est en sachant pertinemment que vous avez une information que manifestement votre co-contractant n'a pas.
Juste, pardon, je vous interromps, oui. Antoine, mais après tout, elle les a quand même vendues une première fois aux enchères publiques à 1000 francs. Donc le prix public à l'époque, c'est 1000 francs.
Bien sûr.
Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un large temps entre la première vente aux enchères et la deuxième ?
2-3 ans, dans les faits.
Oui, alors, est-ce que vraiment, et entre la première et la dernière vente ?
Alors, en fait, les deux ventes sont concomitantes. Les deuxième D'accord. et troisième sont concomitantes.
Et là, à cette époque, on sait que les photos valent beaucoup plus cher.
Oui, à ce moment-là, et elle s'en rend compte. C'est simplement elle qui ne le sait pas, en réalité. D'accord. Parce que le photographe en face, lui, le sait. C'est simplement cette idée que cette information n'a pas été donnée par l'acquéreur, qui la détenait, et qui savait très bien que si la vendresse connaissait cette information, elle n'aurait évidemment pas contracté à ces conditions. Et que nous dit, alors les juges du fond retiennent la nullité du contrat, retiennent la réticence dolosive. En creux, ce qu'on peut comprendre, c'est que les juges du fond sanctionnent l'acquéreur de ne pas avoir donné cette information. Et la Cour de cassation censure la décision en retenant qu'effectivement, il n'y avait pas d'obligation d'information qui pesait sur l'acheteur. Et n'ayant pas d'obligation d'information qui pesait sur l'acheteur, il ne pouvait pas y avoir de réticence dolosive.
Alors moi, c'est vrai que celle qui a vendu les photos était une de mes amies et qu'elle me disait « je me suis vraiment fait avoir par un sale type », je serais en sympathie avec ce qu'elle me dit. En même temps, c'est vrai que comme juriste, je ne vais pas dire bien fait pour elle, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre solution pour le droit que d'admettre cette règle. Sinon, on est sur un régime de méfiance perpétuelle. Ça veut dire que quiconque va dire « je me suis fait avoir en payant trop cher ou en vendant pas assez cher » va pouvoir engager une action en justice. Et donc, tous les contrats vont devenir des sources de contentieux. Donc là, on voit bien pourquoi le droit met la morale de côté. En même temps, c'est vrai que c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. C'est pas si évident que ça. Alors, non seulement le droit met la morale de côté,
bien sûr.
Mais il met aussi l'économie de côté, parce que, c'est vous qui le faisiez remarquer, Étienne, tout à l'heure, c'est que même économiquement, ce n'est pas forcément une décision justifiée.
Oui, parce qu'on pourrait se dire, comme vous disiez, que cette défiance généralisée porterait atteinte au marché et que c'est alors un raisonnement économique qui met l'économie en avant, mais pas du tout, en fait, parce que si on prend les théories économiques qui auraient pu justifier cela, bah, la solution aurait été en réalité inverse, puisque ce qu'on attendait du marché, c'est que chaque partie, donc là la vendresse et l'acheteur, c'est-à-dire les deux personnes qui sont dans le contrat, soient dans une situation de symétrie d'information et non pas d'asymétrie d'information.
Asymétrie, ça veut dire quoi ?
L'asymétrie, là, c'est l'idée que chaque partie ne...
C'est une notion d'économiste. Hein,
oui, c'est une notion d'économiste. C'est que chaque partie n'a pas le même niveau d'information. Bah, la preuve, il y en a une qui connaît le prix et qui connaît l'œuvre de Baldus, là où l'autre est une béotienne et qui les vend 1000 francs, alors qu'elle aurait pu en tirer beaucoup plus. Donc là, il y a une véritable asymétrie d'information et l'acheteur en profite. Or, si on était dans une théorie néoclassique ou classique même, de l'économie, on aurait été dans la situation où on aurait dit il faut que le vendeur ait une totale information du montant de son bien et donc que l'acheteur soit obligé pour permettre que chacun tire un optimum, au sens de Pareto, de son bien. C'est-à-dire qu'il faudrait que tout le monde vende au prix le plus haut garanti par le marché. En réalité, on se rend compte que ça, c'est pas possible et que pour que le commerce tourne bien, il vaut mieux consacrer ce droit à faire des bonnes affaires.
Petite digression, mais donc la morale sur le banc de touche, l'économie, pareil. Ça veut pas dire pour autant que le droit se met pas à l'écoute de tous ceux qui ont des devoirs moraux et qui les ressentent comme tels. Et là, c'est le second sujet du droit par l'exemple, second exemple, qui nous montre que le droit peut faire sien et donner une valeur juridique à un engagement, un devoir de conscience, mais ça n'est jamais mécanique. C'est l'exemple, ce qu'on appelle de l'obligation naturelle. Qui veut commencer ?
Je présente les faits. Donc l'obligation naturelle, là, en l'occurrence, c'était une affaire qui paraît assez triviale, pour le coup, puisque c'était la pratique du quintet plus, donc du tiercé amélioré avec plus de fal.
Bah, 5.
Voilà. Et donc, en l'occurrence, certaines personnes d'une entreprise filaient une petite somme à une autre personne pour qu'elle aille elle-même remplir et choisir la combinaison et les chevaux qu'ils espéraient retrouver sur la ligne d'arrivée. En l'occurrence, cette personne qui est chargée de choisir les numéros, enfin, en vrai dire, de suivre les numéros qui lui sont donnés par ceux qui donnent l'argent pour payer le ticket, change et intervertit les numéros. Problème, qu'est-ce qui se passe ? Évidemment, les chevaux arrivent dans le sens retenu, interverti donc, par la personne qui a rempli le ticket au bureau de tabac. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que elle a le droit à une certaine somme de la part des autres, de la part de celui qui a payé le ticket, puisque vu que c'est elle qui a pris l'initiative de changer les numéros, est-ce qu'on lui doit rien ? Qu'est-ce qui s'y passe ? Donc Antoine, je vais peut-être te laisser.
Oui, bah oui, bien sûr,
s'intéresser.
C'est au sourd que l'intérêt. Donc, effectivement, la question qu'on peut se poser, en sachant que la personne qui a validé ses tickets, il y avait donc une espèce d'accord tacite, pour ne pas rentrer dans le détail, entre, d'une part, la personne qui donnait les numéros, effectivement, des chevaux qui devaient être validés, et puis l'autre qui validait le ticket. Il y avait cette espèce d'engagement de 10% des gains éventuels si jamais les tickets étaient gagnants. Ce qui se passe ici, c'est que la personne qui était donc propriétaire du ticket, disons-le simplement, cette personne, après avoir gagné, alors même que le numéro a été interverti, eh bien cette personne avertit son ami, disons, qu'elle va lui verser les 10% qui étaient
prévus. Ah oui, sans redevable moralement. Voilà.
Exactement, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Il y a cette espèce d'accord qui est fait au PMU.
Oui, mais ce n'était plus le même accord, donc effectivement, c'était que moral.
Évidemment. Et de toutes les façons, il n'y avait pas ici d'accord véritablement juridique. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'elle se sent liée moralement et cette personne va informer justement son ami qu'elle va lui reverser ses 10%.
D'accord. Alors ça me fait penser, oui, moi j'ai un autre exemple qui me vient en tête, c'est l'histoire des successions inégalitaires. Et on est à peu près sur le même type de configuration. Une personne décède, trois enfants, et la personne qui décède décide que seuls deux des enfants hériteront. Et les deux enfants qui recueillent l'héritage disent « c'est injuste pour notre frère » et disent au frère « écoute, on va partager en trois et pas en deux ». Voilà. Et alors, dans ce type de configuration, donc, oui, il y a un sentiment moral, mais il y a l'expression du sentiment moral.
Et effectivement, c'est l'expression de ce sentiment moral qui change tout. En réalité, on sent bien que dans le premier exemple, celui du PMU ou celui de la succession, où les deux sœurs finalement avertissent leur frère qu'elles vont finalement lui reverser une partie de la succession, du montant qui était prévu dans la succession, en réalité, ce qui change tout, c'est cette manifestation unilatérale de volonté. C'est-à-dire, une personne avertit l'autre d'une certaine volonté qui normalement n'engage pas. Une manifestation unilatérale de volonté n'engage pas juridiquement. Et là, ici, ce que nous dit la Cour de cassation dans ses différentes décisions, c'est que cet engagement unilatéral de volonté va transformer le devoir de conscience en une obligation civile. Et la grande différence entre l'obligation naturelle et l'obligation civile, disons-le pour faire simple, c'est que l'obligation civile, on peut en obtenir l'exécution forcée en nature devant le juge et pas l'obligation naturelle.
Oui, quand elle devient moral. Ce qui est important, c'est que chacun fait. Oui, c'est pas grave, c'est le devoir moral. Mais oui, chacun fait un bout de chemin. C'est-à-dire que la morale à l'état brut n'a pas de valeur juridique. L'engagement unilatéral n'a pas de valeur juridique. Mais si l'engagement unilatéral se porte, consiste à formaliser un devoir moral, alors la rencontre du droit et de la morale fait que les deux s'assouplissent. Enfin, l'une se durcit, la morale, et le droit s'assouplit pour donner une portée juridique à quelque chose qui, au début, n'était que de la morale. Mais vous voyez qu'il y a toute une mécanique, et une mécanique assez subtile, qui fait qu'un devoir de conscience va devenir une règle de droit. Ça ne se fait jamais mécaniquement. Alors, troisième temps, et nous abordons là, ici, quelque chose de, qui va vous surprendre, qui est que au fond, le droit peut dicter une solution qui souffre peu le débat, mais la solution va paraître tellement choquante, tellement difficile à admettre, que le droit va quelque part renoncer à lui-même. Et le droit ne renonce pas devant la morale, ne renonce pas devant la morale, le droit renonce devant ce qui lui semble être une exigence de justice. Alors, les juristes romains avaient une expression latine qui disait « sumumius summa ignoria », extrême droit, extrême injustice. C'est-à-dire que si on pousse le droit à l'extrême, on peut arriver à une situation injuste. Sauf que nous avons une illustration récente sur un cas tout à fait extrême. Qui veut commencer ? Étienne,
bon, pourquoi pas,
ouais. Expliquez-nous, parce que quand même, ça ne va pas de soi.
Et cet arrêt, au fond, il illustre aussi un autre adage romain qui disait que le droit est l'art du bon et, oui. et de l'équitable. Il ramène la justice là où le droit, pour lui-même, n'a pas forcément de raison d'être. Et en l'occurrence, dans cette affaire, donc vous allez voir, seul le droit et non pas la fiction permet d'atteindre de tels scénarios. En pratique, ce qui se passait, on avait un couple marié, un homme et une femme. Ils ont un enfant, ils divorcent. Ensuite, la femme décide de se remarier, pas avec n'importe qui, avec le père de son ancien mari. Donc elle est mariée avec le grand-père de sa fille. Là, en droit, normalement, cela ne devrait pas être possible. On devrait dire, ah oui, non, la nullité du mariage, c'est un mariage incestueux par alliance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se marier entre soi, au sein de sa famille, quand même c'est une famille par le sang, ou par les liens d'alliance, les liens du mariage, et les liens en fait du droit, en réalité. C'est une inceste juridique. Et la difficulté...
Je vous interromps. Ce qu'on veut dire, c'est que la femme pouvait avoir une liaison, après tout, avec le père de son ex-mari.
Oui, oui.
Bon, ce que le droit n'admet pas, c'est que cette liaison soit officialisée et qu'elle donne lieu à la célébration d'un mariage.
Voilà, donc, exactement.
Là, ça aurait pas dû se faire, mais ça s'est fait.
Le droit ne se mêle pas de savoir les relations les plus intimes, mais par contre, la reconnaissance par le droit de celle-ci, ça, il le contrôle. Et là, en l'occurrence, ils passent un certain temps ensemble, mais... Étant donné que c'était déjà un grand-père, il ne vit pas indéfiniment, et le grand-père décède. Donc le mari de la femme, le second mari, décède. Ce qui lui donne, pour le faire très rapidement en droit des successions, droit à une certaine partie de la succession. Or ça pose un problème à qui? Ça pose un problème au fils de cet homme, qui dit « Ah oui, non mais j'ai pas envie que mon ex-femme récupère l'argent que je devrais récupérer en tant que fils, imaginons, unique, de mon père. » Donc là... On voit qu'il commence à se dire comment je peux faire pour éviter que mon ex-femme touche ce petit pactole. Là, l'argument qu'il va trouver, c'est que ce mariage était incestueux. Et il va demander l'annulation du mariage pour des raisons d'inceste. Donc il va vraiment utiliser la règle à son profit. Quand il était vivant, ça ne le dérangeait pas de voir sa femme avec son père, enfin son ex-femme avec son père. Mais une fois qu'il est mort, il se dit « il faudrait peut-être que j'essaye de sauver mon patrimoine ». Tout ça va jusqu'à la Cour de cassation. Et la Cour de cassation... Au lieu d'appliquer le droit clairement et en disant bah, « effectivement, ce mariage n'aurait pas dû avoir lieu, il n'a pas lieu d'être, nous l'annulons, et donc là, l'ex-femme du défunt n'aura le droit à aucune partie du patrimoine », en réalité, elle considère que effectivement, le comportement moral de cet homme n'est pas très convaincant, et surtout, on arrive à une injustice qui est de priver cette femme qui a vécu longtemps de ce patrimoine. Donc, elle n'applique pas le droit qui amène à l'annulation du mariage, mais laisse la situation comme elle est et consacre la femme, enfin l'ex-femme du défunt, dans son droit à la succession.
Vérité, comme ça. Je dois dire que, bon, on le présente comme une situation où le droit poussé à l'extrême conduit à une solution injuste. Moi, je suis pas. Vous êtes très convaincu ou pas ?
Donc, forcément convaincu par l'idée que la situation aurait été injuste, mais je crois qu'il y avait aussi dans cette décision l'idée d'une situation, certes illicite, mais qui s'était perpétuée pendant plus d'une trentaine d'années, je crois, et que donc cette situation ayant pris effectivement ses racines assez profondes dans le réel, il fallait peut-être pas la nier complètement.
Voilà. Et peut-être aussi que consacrer l'application du droit ici. Mécaniquement, c'était donner raison à cet homme, le fils et ex-mari, qui se comportait peut-être de manière assez vénale et peu...
Qui instrumentalisait la prohibition de l'inceste. Mais bon, c'est vrai que ça pose quand même... Alors, évidemment, c'est un inceste par alliance, c'est pas un inceste qui méconnaît en violation des liens du sang. Mais bon, c'est vrai que... Voilà, on comprend que c'est cette instrumentalisation qui choque. En même temps, on voit qu'ici, le renoncement du droit à lui-même va très loin, puisqu'il porte sur une règle qui est quand même une règle structurante d'un point de vue anthropologique, qui est la prohibition de l'inceste. Et vous voyez que même sur des sujets extrêmement sensibles, le droit s'est renoncé à lui-même. Tentons maintenant, après ces trois exemples qui nous ont permis de voir comment la question des fondements du droit se pose sur des solutions dans des cas qui ont donné lieu à des décisions de justice. Essayons maintenant d'aller plus loin, si c'est possible. Aller plus loin. Alors nous avons retenu aujourd'hui un thème, mais un thème sur lequel il y a beaucoup à dire, qui est le thème dit de la GPA, gestation pour autrui. De quoi s'agit-il? Une personne généralement plutôt un couple, hétéro ou homo, s'adresse à une femme pour lui demander de porter un enfant, sachant que cette femme qui porte l'enfant s'engage à le restituer, enfin à le rendre, dès sa naissance, au couple qui a sollicité cette femme pour qu'elle porte l'enfant. C'est ce qu'on appelle la gestation pour autrui, ce qu'on désignait autrefois comme la convention de mère porteuse. Notre droit a une position claire sur le sujet, il prohibe cette convention. Simplement, nous savons qu'en ce moment, il y a un débat public sur les lois dites de bioéthique qui vont être fondues, et on sait que dans les discussions parlementaires est venue la question, et revient d'ailleurs de manière régulièrement, la question ou non de valider la gestation pour autrui, la convention de mère porteuse, alors qui pose à la fois des questions de principe et des questions de mise en œuvre. Question de principe, la position du droit français de refus de cette convention, sur quel principe repose-t-elle, Antoine ?
Bien, on peut la présenter brièvement, cette position de principe, ce refus de la gestation pour autrui, parce que la convention de mère porteuse porte atteinte, disons-le franchement, au principe d'indisponibilité du corps humain. Et ce principe d'indisponibilité, je crois qu'on a tous remarqué dans le cadre des TD qu'il parfois posait certaines questions aux étudiants. Parce que le premier réflexe quand on commence ses études de droit, c'est peut-être de se dire mais je fais ce que je veux avec mon corps. Alors pourquoi est-ce que le droit me dirait que le corps humain est indisponible ? Alors, il faut bien comprendre ce principe d'indisponibilité. L'idée, c'est simplement de dire que dans les rapports d'un individu avec son propre corps, le droit ne va pas sanctionner toutes les conventions, tous les contrats qui seront passés par un individu sur son propre corps. Voilà simplement ce que ça veut dire. Ça veut simplement dire que vous ne pouvez pas vous couper le bras et le vendre. En revanche, si vous avez envie d'être chez vous, je prends un exemple un peu extrême, et de vous manger un doigt, vous pouvez tout à fait le faire. La différence, c'est que dans un cas, le droit n'est pas concerné, le cas où vous êtes mangé le doigt, et dans l'autre cas, le droit sera concerné parce qu'on vous lui demandait de sanctionner un contrat, sous contrat de vente de votre bras. On peut raisonner de la même manière avec une location d'un utérus. Et bien sûr, présenté de cette manière, on comprend que le principe d'indisponibilité est violé.
Oui, alors, au nom de quoi cette indisponibilité? Au nom de quoi ce refus du droit? Et je crois que vraiment vous l'avez très bien expliqué, Antoine, ce refus du droit de consacrer des attitudes par rapport au corps. C'est-à-dire chacun fait ce qu'il veut de son corps, mais le droit n'est pas obligé d'apporter son onction. Est-ce au nom de la morale, au nom de l'éthique
Peut-être d'une certaine prudence du juriste et d'une conscience des extrêmes vers lesquels on peut être tiré très rapidement à travers cette...
Parce que tout à l'heure, l'émission l'a un petit peu préparée, vous vous en doutez, on n'est pas dans la pure improvisation. Et tout à l'heure, vous nous disiez quand même, vous nous donniez un exemple de quelque chose qui est en train de se passer. Et moi, je ne vous ai pas cru au début. Donc il y a un moment où on se dit peut-être que cette indisponibilité traduit un principe de prudence, un principe de sagesse. Mais racontez-nous l'histoire, parce que quand même,
alors,
ça
vaut le détour. L'histoire ça vaut même plusieurs milliers de kilomètres, puisque l'histoire se passe aux États-Unis.
Milliers de dollars, oui.
Donc en pratique, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Cette histoire, c'est un couple qui ne peut pas avoir d'enfant et qui cherche à procéder à une GPA. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Problème, ce sont deux Français. Ces Français, en France, ne voient pas de consécration de leur envie d'enfant. Ils n'ont pas de droit à l'enfant. Donc ils vont aux États-Unis, là où les mœurs sont peut-être un peu plus libérales sur ces questions-là. Aux États-Unis sont mises en place, et depuis déjà plusieurs années, disons, sur ce point au moins de l'avance sur nous, un catalogue où vous pouvez choisir la personne qui vous donnera, plutôt vous vendra en l'occurrence, ces ovocytes, c'est-à-dire ce qui vous permettra ensuite de faire une fécondation in vitro avec le sperme de, si vous cherchez une femme, du père biologique qui, lui, peut très bien être à l'origine de la GPA. C'est-à-dire que vous pouvez à la fois chercher une mère porteuse et donner votre sperme en imaginant qu'il soit tout à fait fécond. Donc, je passe les détails.
En l'occurrence, marché, quoi.
Voilà, on commence à regarder un petit peu comme on regarderait un catalogue, La Redoute, ceux qui connaissent. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il y a des différents profils, mais chaque profil ne se vaut pas, littéralement, puisqu'il y a des profils qui sont plus ou moins chers, des femmes d'origine modeste qui donnent leurs ovocytes, qui vendent leurs ovocytes, et des femmes plus ou moins à caractère prestigieux, qui ont fait de grandes études à Stanford, à Berkeley, à Harvard, et qui se vendent pour plusieurs dizaines de milliers de dollars.
Vous avez parlé de 100 000 dollars.
100 000 dollars en l'occurrence pour obtenir une astrophysicienne neurochirurgienne, bon, un peu un modèle unique. Et donc, en échange de vos 100 000 dollars, avec l'aléa que cela comporte, vous achetez cette ovocyte. Vous avez aussi une femme qui sert de réceptrice, que vous payez aussi, évidemment, dans lequel vous allez essayer de féconder ces ovocytes. Le problème, c'est que première fois, ça loupe. Il vous en reste 6, c'est pas grave. Deuxième fois, ça reloupe. Je vous passe les détails.
Ça
rate 6 fois, et même 7 fois. Et là, vous n'avez pas, parce que là, en plus, vous verrez que c'est du droit des contrats américains, donc ça sera pour un petit peu plus tard, mais l'aléa faisait que vous n'obtenez rien du tout, il n'y a pas de vice caché. Vous étiez conscient du fait que ça ne pouvait ne pas marcher. Problème, qu'est-ce que vous faites? Il ne vous reste plus beaucoup d'argent, alors que vous en avez déjà engagé une certaine quantité, et vous vous rabattez, si l'on peut dire, puisque là, il y a vraiment une idée de hiérarchie des êtres humains, vous vous rabattez sur une personne de moindre valeur mercantile, de moindre valeur pécuniaire, à laquelle vous donnez le peu qui vous reste pour obtenir, in fine, votre enfant, que vous élèverez peut-être difficilement, vu l'argent que... Voilà, vous lui reprocherez de vous avoir fait peut-être perdre.
Voilà, donc on va... Bon, on n'est pas hyper à l'aise. On n'est pas hyper à l'aise pour quand même deux... Je pense... Moi, je dis deux raisons. Il y a, pour le coup, une raison morale qui est que... bon, au fond, on va pouvoir profiter de toute la misère du monde, soit en achetant des organes, soit en louant des ventres. Au fond, c'est ça qui est assez désagréable. Et puis, il y a un petit problème éthique aussi, qui est-ce que l'homme ne se remet pas lui-même totalement en cause, à vouloir faire totalement ce qu'il veut de sa propre espèce, à être demain d'une image... Au fond, à ne plus admettre l'idée que dans l'humanité, il y a une forme d'imperfection et que la seule humanité acceptable est une humanité parfaite. Ben, une humanité parfaite, c'est déjà plus une humanité. Il y a quand même, à mon avis, de bonnes raisons pour qu'on ait quelques prudences et en tout cas quelques attentes sur un sujet qui est aussi sensible. Alors, il reste qu'en pratique, on a quand même des enfants qui sont issus de GPA. Et on leur dit quoi, ces enfants?
C'est toute la question. C'est toute la question qui se pose, justement, parce qu'on sait qu'en France, la pratique de la GPA est interdite parce que son socle, la convention de mère porteuse, le contrat par lequel on loue l'utérus de la personne, est interdite. Donc, ce que font les gens dans leur désir d'enfant, c'est qu'ils vont à l'étranger et ensuite reviennent avec les enfants nés de ces GPA à l'étranger en France. Donc, le droit français qui a sa posture assez claire, qui est une posture de refus de la gestation pour autrui, se retrouve avec la question de savoir s'il doit sanctionner, au sens neutre, s'il doit accueillir en droit français, dresser un état civil en droit français pour ces enfants nés de GPA licite à l'étranger. Illicite en France. Et c'est toute la question qu'on peut se poser, et c'est la question qui, bien sûr, a donné lieu aux différentes affaires portées devant la Cour de cassation et la Cour européenne des droits de l'homme.
Oui, alors, on dit quoi, nous hein? On dit le... Parce qu'après tout, on pourrait dire, c'est vrai qu'on a une petite gêne en ce sens que ces enfants, entre guillemets, sont conçus en fraude à la loi française. Et donc, si on leur donne un état civil en France, ben, on valide la fraude des parents. Bon, en même temps, si on ne leur donne pas d'état civil, on fait payer à l'enfant le comportement frauduleux des parents. Et le choix du droit français, c'est qu'on fait prévaloir l'intérêt supérieur de l'enfant et qu'on lui donne un état civil et qu'a priori, il vaut mieux lui donner un état civil. À quoi on peut quand même ajouter que même si le comportement des parents a été un comportement frauduleux, puisque le but a été de contourner la règle française en allant pratiquer une convention de mère porteuse aux États-Unis, on peut aussi imaginer que ces enfants ont un projet parental, ont quelque part de la suite dans les idées, et qu'il vaut mieux que cet enfant soit élevé par ses deux parents, quand bien même des parents d'intention, quand bien même ses parents ont utilisé un dispositif frauduleux, plutôt que de confier cet enfant à une administration, en tout cas lui confier un destin, en dehors de ceux qui l'ont voulu comme enfant. On pourrait en parler encore, je crois, très longtemps de ce sujet. On en parlera encore sans doute pendant quelques années. Voilà, nous avons essayé d'aller plus loin. Nous avons essayé d'éclaircir cette question des fondements du droit en prenant des exemples extrêmement concrets. Et je crois que ce qu'on voudrait tous les trois que vous reteniez, c'est que quelque technique que soit la question qu'on se pose en droit, la justice et l'idée de justice n'est jamais très très loin. Elle justifie qu'on y réfléchit et qu'on s'y arrête. Merci infiniment, Étienne. Merci infiniment, Antoine.
Merci à vous.
Et à la prochaine fois. Au revoir.
Au revoir.